Merci beaucoup d'écouter Radio Alpha et plus précisément l'Alpha 10-13. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Niasme, actuelle maire de Villeneuve-Saint-Georges, candidate à sa propre réélection les 15 et 22 mars prochains, élue lors de l'élection municipale anticipée. Elle a depuis un an la lourde responsabilité de piloter une ville aux défis sociaux et économiques importants. Nous allons donc parler de ses priorités, des actions menées et de sa vision pour Villeneuve-Saint-Georges. Madame Christelle Niasme, bonjour.
Bonjour, merci de votre accueil.
Merci à vous d'avoir accepté. C'était notre invitation. Commençons peut-être par les conditions de votre arrivée. Il y a maintenant un an à Villeneuve-Saint-Georges. Je rappelle que vous avez donc été élu dans le cadre d'une élection municipale anticipée qui avait été organisée donc en février 2025 après la démission d'une partie du conseil municipal. Et vous avez remporté le scrutin, notamment face ou à la tête de liste du parti La France Insoumise Louis Boyard, mais aussi face à l'ancien maire d'hiver droite Philippe Gaudin. Quel sens vous donnez à ce mandat offert par les électeurs dans ces conditions, dans une ville considérée comme un des territoires les plus fragiles du Val-de-Marne?
C'est un petit peu ce que je dis souvent. Moi, cette année, on l'a pas vu passer parce que c'est un peu aussi comme l'élection qu'il y a eu il y a un an. On a, pour ma part, et aussi avec l'équipe, on a la tête dans le guidon. Moi, c'est le souvenir que j'ai d'il y a un an, la tête dans le guidon, c'est on mesure l'enjeu et le risque qu'il y a, parce que la ville, elle a connu déjà 12 ans d'une gestion assez catastrophique, avec des hausses d'impôts, des dettes, enfin bon, tout ce qu'on sait de notre ville, qui a laissé des traces très compliquées. Maintenant, on dit que Villeneuve est la ville la plus pauvre du Val-de-Marne. Ce que je déteste, je veux pas qu'on stigmatise ma ville. Ensuite, elle a connu 4 ans d'un mandat chaotique, une élection, donc c'est beaucoup, on va dire, de tensions autour d'un quotidien qui a rendu la vie très compliquée à nos familles. Les familles villeneuvoises, elles se disaient, bon, bah, on en a ras-le-bol, on veut partir, elles ont pris ça comme une fatalité. Donc quand on se retrouve avec une figure nationale, parce que, quoi qu'on en dise, le candidat Louis Boyard à l'époque était et reste une figure nationale, on mesure non seulement déjà toute la souffrance, toute la difficulté qu'il y a sur notre territoire, et aussi le risque. Le risque était grand il y a un an, particulièrement grand il y a un an, de voir arriver un tel profil sur notre territoire, avec tout ce que ça implique comme conséquence, avec tout le programme de la France Insoumise, notamment en matière de sécurité. Et sur notre ville, il y avait un enjeu extrêmement important en matière de sécurité. Alors à ce moment-là, il y a un an, on a la tête dans le guidon, on se dit qu'il faut absolument continuer chaque jour de convaincre chaque famille de prendre la mesure de la situation. Et chose pas simple, je crois, c'est de leur faire prendre la mesure qu'un autre avenir était clairement possible. Et je crois que ce challenge, en un an, on a réussi à le relever en partie parce que c'est nos familles qui nous le disent. Elles me disent, mais les choses ont changé depuis un an. Parce que là aussi, pendant un an, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vu le temps passer. Mmh. Et souvent, on a du mal à prendre du recul sur le travail qu'on fournit. On a besoin des autres, on a besoin de nos familles pour nous le dire. Et quand ce sont nos familles qui nous disent qu'elles sont satisfaites du travail qui est fourni, bah, c'est le meilleur des témoignages. Ça veut dire que les politiques publiques qu'on mène, elles sont dans le vrai, elles correspondent aux attentes. Et je crois que la plus belle chose que j'ai entendue de nos familles, c'est que moi, je fais beaucoup de porte-à-porte. Je rencontre beaucoup les familles depuis tout le temps que je suis dans le domaine. Et je sais qu'il y avait un certain désespoir. Les familles disaient, bon, bah, on veut partir, on quitte, on vend, on part de la ville. Et aujourd'hui, les familles, quand on retoque à la porte, un an plus tard, elles me disent, ah bah non, bah, je pars plus. Je sais qu'on peut faire autre chose à Villeneuve-Saint-Georges, je ne pars plus.
Et alors, qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous?
La différence, c'est que, à l'inverse de, parce que c'est vrai que c'est un petit peu comme je le dis à chaque fois, nous, moi, j'ai pas vu l'ampleur nationale qu'a pris cette élection, et on est toujours resté sur du local. Et ça, c'est vraiment pas notre marque de fabrique, mais on va dire que c'est ce que nous sommes, c'est profondément en nous. On est villeneuvois, on défend nos familles villeneuvoises, et puis aussi c'est toute la beauté d'un mandat local. On est là pour nos familles avant tout, et d'ailleurs notre liste s'appelle Villeneuve d'abord, c'est dire à quel point pour nous c'est important. Et donc ce qui fait la différence, c'est que nous on fait fi de toutes les enjeux, tout l'extérieur. On est au plus proche des préoccupations de nos familles. Pour moi, l'essentiel serait de répondre à ce dont elles ont besoin. C'est répondre en matière de sécurité, répondre en matière de propreté, répondre en matière d'attractivité du territoire, faire évoluer l'image de notre territoire. Ça, c'était l'enjeu de ce mandat. Et je crois qu'on a commencé à y répondre très favorablement. Et donc là, ça a recréé une dynamique sur notre ville.
Vous évoquiez la pauvreté à Villeneuve-Saint-Georges. Citons quelques chiffres. Villeneuve-Saint-Georges, c'est donc 36 000 habitants, 34% en dessous du seuil de pauvreté, ce qui fait de Villeneuve-Saint-Georges la commune la plus pauvre du Val-de-Marne. Comment y remédier?
Trois fois, hein. c'est dur, hein, c'est dur de l'entendre. Non, nos populations. Vous savez pourquoi j'aime pas ça? Parce que ça, c'est très important l'image qu'on a d'une ville. Et pourquoi c'est très important? Parce que ça permet de faire revenir justement, de donner confiance. Et je crois que c'est au cœur même de toute notre action, la confiance. Il faut donner confiance, confiance aux partenaires pour qu'ils aient envie de nous suivre, pour nous donner des subventions, nous accompagner sur des projets, venir porter des projets chez nous. Il faut de la confiance pour les investisseurs, pour qu'ils viennent investir, pour qu'ils viennent s'installer en ville. Il faut de la confiance pour que les familles viennent, s'établissent, construisent leur maison, achètent une maison et y ancrent leur famille. Donc c'est vrai que quand on stigmatise ou quand on donne des termes peu élogieux d'une ville, c'est très compliqué. Donc c'est,
là, je n'ai pas stigmatisé.
C'est factuel. C'est vrai. C'est un fait. Mais le fait de l'avoir répété pendant de nombreuses années a eu des conséquences. C'est surtout ce que je veux dire. Le fait de n'avoir accès que sur ce point a eu de lourdes conséquences. Villeneuve-Saint-Georges, on peut en parler pour la Seine. On est à l'embouchure de la Seine et de l'Yerre. On a de nombreux atouts. On peut en parler parce qu'on a encore de nombreux espaces verts. On peut en parler parce que nous sommes une ville qui a encore un espace encore ferroviaire magnifique. On peut en parler pour notre patrimoine. Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville dont le cœur et la naissance commencent au XIe siècle. Une ville neuve construite autour du Cavalier de Saint-Georges. C'est une ville magnifique à plein d'égards où beaucoup d'artistes se sont établis. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire d'une ville et il va falloir passer au-delà de ce qui a été dit pendant 12 ans où on a accès effectivement sur ce point pour pouvoir créer un rééquilibre sur notre territoire, voir ce qui est beau, voir ce qui est très beau chez nous.
Quand on lit votre programme, on comprend que vous avez défini la sécurité, l'éducation, l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi donc l'environnement, vous le citiez, oui. La santé, les seniors, la sécurité. Donc il y a qu'une demi-page sur le patrimoine, on reviendra sur cette question. Mais concrètement, quelles mesures ont été prises jusqu'ici et quelles mesures souhaitez-vous continuer si vous êtes réélu?
Bien sûr. Les plus importantes, vous l'avez dit, et c'est aussi pour ça qu'on a organisé le programme en ce sens, c'est effectivement la question de la sécurité. Pourquoi? Parce que c'est comme je le dis souvent, c'est le premier des droits et c'est de celui-ci qui permet d'activer tous les autres, de faire que les autres sont effectifs. Dans une ville dans laquelle il manque de sécurité ou il n'y a pas de sécurité, eh bien, vous ne pouvez pas vous promener en ville, vous ne pouvez pas accéder au parc, vous ne pouvez pas aller librement et paisiblement à l'école, dans les équipements sportif. C'est bien simple, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les gens fuient la ville, les gens ont envie de fuir. Donc il faut une ville dans laquelle eh bien, il n'y ait plus d'attroupement en pied d'immeuble, plus de points de deal visibles avec bon, c'est ce qu'on avait. On avait des rues qui étaient complètement désertées, dans lesquelles les familles n'osaient plus se promener. Et aujourd'hui, c'est un premier challenge qui a été relevé. Maintenant, il faut qu'on s'étende sur l'ensemble du reste de la ville. On travaille très lourdement sur la lutte contre l'alcoolisation sur la voie publique et sur les contrôles routiers aussi, la vitesse, d'apaiser la vitesse, calmer. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, il y a un sentiment d'impunité qui s'était installé chez nous. On dit, on vient à Villeneuve-Saint-Georges, on peut le faire. On peut faire des dépôts sauvages, on peut venir s'alcooliser sur la voie publique, on peut dégrader, on peut casser, on peut taguer. Non, c'est fini. On arrête. Et ça, c'est très important que ce message, et on en revient encore à l'image, l'attractivité, il faut que ce sentiment d'impunité, et je crois qu'on est en passe d'y arriver, ce challenge commence à être relevé, le sentiment d'impunité, on arrête. À Villeneuve-Saint-Georges, on ne fait plus n'importe quoi. Et ça, on va l'ancrer dans le temps. On va continuer de développer les effectifs de police municipale, parce que ça aussi, c'est quand même un challenge qu'on a réussi à relever. Je l'ai mesuré hier. On a réussi en l'espace de quelques mois à gagner la confiance de notre chef et de notre second aussi en police municipale et à recruter 17 agents de police municipale. Il y a des maires qui n'arrivent à le faire qu'au bout d'un mandat. De 2-3 ans. Nous, on a réussi à avoir une équipe complète qui s'est activée dès le départ, qui a agi. On a 3 chiens qui sont en plus merveilleux. Ils sont assez. On a Thor Roger et le dernier. Je l'oublie. Et Binouz. Comment je peux oublier Binouz? C'est le meilleur. C'est un cocker. Et donc 3 chiens qui sont des agents aussi formidables et donc tous nos ASVP. Donc ça nous permet de lutter contre. On a une brigade environnement et donc ça nous a permis petit à petit de rétablir l'ordre en ville. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on a réussi à mettre en place. Donc, on va le poursuivre, on va accentuer l'effort pour que sur toute la ville, on puisse continuer à pacifier le territoire. Il faut arrêter là, l'alcoolisation sur la voie publique. On a ensuite des sujets très compliqués pour nos jeunes. Maintenant, nos jeunes, vous savez, qui se mettent au ballon. Il n'y a même pas d'appareil législatif pour lutter contre ça. Donc il y a tout un travail de prévention, donc disperser ces attroupements pour qu'ils arrêtent dans les voitures aussi d'atteindre à leur propre santé. Donc ça, c'est un vrai, vrai sujet. Les caves, les halls d'immeubles, pour que les gens puissent vivre paisiblement, qu'on vive dans du logement social ou qu'on soit propriétaire, que partout en ville, on puisse enfin avoir du plaisir à être à Villeneuve-Saint-Georges.
Oui, on l'entend, rétablir l'ordre, la sécurité sont des enjeux prioritaires pour vous. Mais alors, quelle place pour la culture? Quelles sont vos mesures concernant la culture?
La culture, c'est tellement important. Vous savez, on a été longtemps dans un mandat de gauche communiste où ils disent que la culture, c'est le premier des droits et c'est ce qui doit être la priorité. Nous, on est passé sur... ça, c'est ma couleur politique. Hein, je suis une femme de droite. Après, ma liste, elle est beaucoup plus large. Elle représente surtout l'ensemble des Villeneuvois, beaucoup de gens de la société civile également. Mais par contre, nos équipements, ils ont été transférés. Ils ont été transférés au territoire il y a déjà une dizaine d'années, sous l'ère communiste. Hein, c'était la majorité communiste qui a choisi de le transférer au territoire, qui lui-même l'est encore. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est qu'on est à 8 millions pour l'ensemble de nos équipements. Théâtre, piscine, conservatoire. Et aujourd'hui, ce sont des équipements dont nous n'avons pas la maîtrise, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que j'ai plus de 200 Villeneuvois, par exemple, pour le théâtre, qui sont inscrits dans les villes d'à côté. Parce qu'aujourd'hui, nous n'offrons pas la programmation que nous méritons. Moi, si on me redonne mon théâtre demain, et c'est ce pourquoi je me battrai, pour récupérer nos équipements culturels, demain, on fera une programmation qui soit adaptée à nos familles. On mettra du cinéma pour nos seniors, qui me le réclament très régulièrement. On pourra permettre à nos enfants d'accéder au théâtre, dans les écoles. On pourra faire des bars éphémères devant le théâtre. Voilà, il ne reste pas André Bouquet. Le redonner aux associations pour que l'été, ça puisse vivre, pour qu'on n'ait plus des équipements qui sont fermés, qui sont illisibles pour la population et qui les obligent encore une fois à prendre leur voiture pour aller à l'extérieur, ce qui est tout à fait dommageable. J'ai plus de familles de l'extérieur qui viennent dans les équipements, par exemple, du conservatoire, en raison de l'attractivité des tarifs, que des familles villeneuvoises. Est-ce qu'on n'a pas plus besoin de nous, puisqu'on est un territoire fragile, de pouvoir accéder à la culture, à la musique, à des choses justement qui parfois nous sont interdites. Donc tout ça, c'est un enjeu majeur et on attend beaucoup des prochaines mesures qui pourraient nous permettre de redécouper et de revoir le fonctionnement de ce territoire qui aujourd'hui a de lourdes conséquences sur la gestion et le quotidien de nos familles.
Christelle Niasme, vous parliez de maîtrise. Pensez-vous que les maires aujourd'hui, dans la situation financière, budgétaire, économique du pays, peuvent agir? Quand on sait que le gouvernement cherche à faire des économies à tout prix, restera-t-il de l'argent pour les villes? Les communes font face à des baisses actuelle de dotation de l'État.
Bien sûr. Ça, c'est la grosse difficulté de demain parce que les exigences de nos familles, forcément, puisqu'on a, notamment en matière de santé. Santé, c'est une des prérogatives de l'État, tout comme la sécurité. On pourrait parler de la sécurité. D'ailleurs, c'est un débat gauche-droite. Nous, quand on dit qu'on doit faire des polices municipales, qu'on les subventionne, la région nous subventionne. Le bouclier de sécurité a été attaqué très lourdement par les majorités de gauche qui disent c'est la prérogative de l'État, c'était pas à nous de le faire. Oui, mais on n'a pas le choix. Nous, les maires, les élus locaux, on est le dernier rempart, on est les premiers à répondre et on se doit de répondre à nos familles. Moi, demain, je ne peux pas dire à mes familles, là, le sujet qui va arriver, c'est la question de la santé chez nous. Même si on a la chance d'avoir un hôpital, je ne peux pas dire à mes familles, je ne peux rien faire, ce n'est pas mon sujet. Il n'y a plus de médecins. En l'espace de 20 ans, on est passé de 30 médecins à 5 médecins généralistes sur notre ville. C'est dire, sur 36 000 habitants, nous sommes carencés. Donc on a un vrai sujet, même si nous avons un hôpital, une polyclinique, un centre municipal de santé. Mais aujourd'hui, on va avoir un véritable enjeu pour recréer de l'attractivité pour que les quelques médecins qu'il y a encore, ils soient suffisamment intéressés pour venir sur notre ville. Recréer l'attractivité, tout par-delà, l'attractivité du territoire. Quand on est médecin, qu'on a envie de s'établir, de mettre sa famille, d'avoir son cabinet, de s'y installer. C'est pour ça que je suis aussi pointilleuse sur les termes qui sont employés pour désigner la ville. Parce qu'il faut, pouvoir attirer, attirer des médecins, leur donner envie de rester. D'ailleurs là, on est en train de travailler aussi sur le peuplement des prochaines résidences. Faire en sorte que du personnel essentiel, du personnel médical, puisse s'installer dans les nouveaux immeubles. Ce qui était prévu initialement, c'était un peuplement de population assez défavorisée. C'est ce qui avait été prévu sur les précédentes mandatures. On est en train de retravailler tout ça, justement, pour qu'on puisse mettre du personnel essentiel, du personnel de l'hôpital. On est en train de faire revenir dans des rues comme la rue de Paris, la sécurité encore, parce qu'on retrouve la confiance. On a une rue qui est beaucoup plus sécure aujourd'hui. On n'a plus de trafic, on n'a plus d'alcoolisation sur la voie publique. Donc on peut faire venir un équipement public, un centre médico-psychologique dans l'une des rues dans lesquelles on n'osait plus circuler avant. Ça, c'est très important. Demain, ces agents, ce sont des familles qui vont se réapproprier la rue et ce sont des gens qui vont venir consommer. Ça nous permettra de diversifier le commerce.
Le but est-il de gentrifier Villeneuve-Saint-Georges ?
La gentrification, on a eu ce débat en conseil municipal. Je parle pas de gentrification parce que voyez-vous, quand j'ai demandé la définition à monsieur Boyard, il me l'a pas vraiment donnée. Il a pris son téléphone, il a regardé, il m'a donné une définition assez opaque. Pas gentrifier, rééquilibrer. Je crois que toutes les villes ont besoin d'être un équilibré. Nous ne pouvons plus être la ville la plus pauvre du Val-de-Marne. Ça n'est pas possible. On ne peut pas être la ville qui souffre le plus, qui est le plus carencée, qui celle pour laquelle on regarde vers le bas, et c'est plus possible. On a besoin d'un équilibre parce que je crois que quand on veut vraiment faire du social et quand on aime vraiment les gens, qu'on a vraiment envie qu'ils vivent dans de bonnes conditions, les gens, on les regarde pas à l'aune de leur couleur, de leur origine et encore moins de leur niveau social. Si on veut qu'elles vivent bien, eh bien, on les distingue pas et on fait en sorte que le service public soit équivalent pour toutes. Et faire en sorte que le service public soit équivalent pour les familles défavorisées comme les familles les plus aisées, ben, c'est faire en sorte qu'on crée un équilibre pour qu'il y ait des commerces, pour qu'il y ait du service public de qualité accessible, des soins, une offre de soins adaptée.
Vous venez de dire à l'instant enjeu social, vous avez utilisé cette expression, et c'est une expression que j'ai souvent retrouvée quand on s'intéresse un peu à Villeneuve-Saint-Georges. On dit souvent que Villeneuve-Saint-Georges est une ville à, je cite, « fort enjeux sociaux ». Qu'est-ce que ça veut dire et lesquels ?
Fort enjeux sociaux. J'aimerais savoir qui dit ça, je pense que ça doit être encore fort enjeux sociaux. On va dire
on lit dans les médias, on l'entend effectivement dans la bouche de l'opposition.
Moi, je pense qu'ils
c'est une expression
vision,
qu'on écoutait aussi dans la bouche de l'opposition quand c'était la gauche qui était au pouvoir à Villeneuve-Saint-Georges.
Oui. Ils ont, je pense, une vision. Moi, je pense que tout ce qui est la France insoumise ont une vision tronquée de nos quartiers, de nos quartiers populaires. Enjeux sociaux, on va dire que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On a des familles qui sont plus fragiles. Ça, c'est vrai. Je peux pas l'occulter. Oui, j'ai des quartiers, c'est factuel, j'ai 34% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a sur certains secteurs peuplés avec des familles qui clairement sont très éloignées de l'administration. Ça a des conséquences sur l'éducation parce que nos professeurs dans chez un quartier tout entier où les familles sont tellement fragiles que les professeurs aujourd'hui, avant de faire leur mission d'enseignement, ils ont aussi tout un travail d'accompagnement social. Et ça, c'est vrai que plus on multiplie dans une classe et dans un quartier des familles qui sont fragiles, ça a des conséquences sur l'éducation qu'on donne aux enfants. Parce que quand on a dans une classe de 20, 15 enfants qui sont en lourde difficulté sociale parce qu'à la maison on ne peut pas suivre, parce qu'on a ou des problèmes avec la langue ou des problèmes sociaux qu'on mange pas forcément le soir ou le matin, qu'il y a des violences qui peuvent aussi être impliquées dans le noyau familial. Donc tout ça, ça a des conséquences sur l'ensemble, parce que quand vous avez un profil à suivre sur 20, c'est pas la même chose que quand vous en avez 15. Donc pour tout ça, et on a la chance d'avoir encore, nous, parce qu'on est encore dans les dispositifs État, des accompagnements, des subventions qui nous viennent, qui nous permettent de mettre en place, on va dire, des cercles vertueux autour des familles. On a des programmes de réussite éducative qui permettent d'assurer un accompagnement social beaucoup plus pointu. Et puis, sur toute la question du périscolaire aussi, ça nous permet de les accompagner et de les sortir, on va dire, de ce quotidien. Et puis, pour tout le reste, on essaye de pallier, nous, villes, aux défauts de commerce ou tantôt d'activité dans ces quartiers qui ne peuvent pas en retrouver parce que pour l'instant on n'a pas encore le panier moyen pour faire venir des commerces.
Votre élection a été vue il y a un an comme un symbole politique assez fort, comme une barrière à l'implantation de la France insoumise, une barrière à cette gauche qui tente avec ses municipales de grignoter notamment la petite couronne parisienne qui pendant longtemps a été la petite couronne du Parti communiste français. Les filles essayent de grignoter ce territoire-là. Comment gérez-vous cette dimension nationale, disons-le ainsi, tout en restant centré sur les enjeux locaux ?
On est un peu schizophrène parfois.
Eh oui.
Quand je suis à Villeneuve-Saint-Georges, je suis villeneuvoise. Quand on est à Villeneuve-Saint-Georges, il faut s'occuper avant tout de nos familles. Et on va dire que l'intérêt, j'y vois un avantage très fort parce que je sais qu'on est regardé à l'extérieur. Je sais que notre ville maintenant a pris une dimension nationale, mais je la mesure toujours pas. Pour tout dire, je la mesure toujours pas parce que je pense qu'il y a l'élection qui est passée très vite, cette année qui est passée très vite, et on est de nouveau dans une réélection. Je pense que je m'intéresserai aux enjeux nationaux parce que, on va dire que jusqu'à maintenant, la dimension nationale nous a permis pendant un an d'agir et de faire énormément pour la ville. Et c'est un grand bénéfice. Et pour moi, c'est dans ce sens-là que ça doit aller. Et dans l'autre sens, je crois qu'à l'échelle nationale, Villeneuve-Saint-Georges, on a notre mot à dire, on a notre pierre à porter à l'édifice national. C'est-à-dire que d'arrêter de stigmatiser les quartiers populaires, les villes comme la nôtre, je crois que c'est le message qu'on peut envoyer grâce à Villeneuve-Saint-Georges. Dire que c'est pas parce qu'on a un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté qu'on vit plus mal qu'ailleurs. Que on doit stigmatiser nos familles. Donc c'est, je pense que c'est le message que nous, en retour, on peut apporter au niveau national.
Craignez-vous l'abstention, que l'on sait très forte à Villeneuve-Saint-Georges?
Oui. Parce que Villeneuve-Saint-Georges, déjà, j'ai 36 000 habitants, j'ai 12 000 inscrits sur les listes électorales. C'est terrible, hein, ce gap. Hein.
Donc, ah, il y a un écart énorme.
Écart énorme.
Comment s'explique-t-il?
La population, pour voter, il faut avoir la nationalité française. Beaucoup aussi ne savent pas, étant européens, qu'ils peuvent voter. Mmh. Ça a été un enjeu assez important. Pourtant, on a battu le pavé. Hein. Donc ça, c'est un vrai challenge de faire comprendre. Et je crois qu'il faut, quand on est, même si on est européen, mais quand on habite une ville, il faut se déterminer. C'est trop important. Parce que malheureusement, mais même si on vit en ville, et les familles finissent par partir quand c'est mal géré. Donc il faut se déterminer, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Donc nous, on a essayé pendant un an de faire ce travail d'explication, de pédagogie, de dire inscrivez-vous. Mais c'est vrai que 36 000 habitants maintenant, 12 000 inscrits, et l'élection se joue à la moitié ou au quart du corps électoral, sachant en plus que là, on a 410 personnes inscrites qui sont candidates, parce qu'on est aussi la ville qui a le plus de candidats sur cette élection.
Et oui, j'ai vu ça, j'ai regardé toutes vos listes en imprimant tous les candidats de toutes les listes, j'ai l'équivalent très précisément de 16 pages.
Oui, mais c'est pas mal. Ouais, non, mais nous, on cultive notre exception. Là, j'en changeais avec les autorités, ils me disaient que ça représentait donc tous les candidats, on est 3,5% du corps électoral, 410 personnes qui sont sur des listes. Alors, pour la plupart, tous issus, bien sûr, des mandats précédents, beaucoup, mais c'est vrai que là, l'expression démocratique est assez forte chez nous.
Et quand on sait donc qu'il y a 12 000 électeurs possibles, comment on organise sa campagne? Forcément, on cible.
On est très très militant. On est très très militant chez nous. On n'a jamais abandonné le terrain. Donc le porte à porte, bien sûr, beaucoup de réunions de quartier. On a fait des permanences itinérantes, mais ça c'était dans le cadre de notre mandat. On a fait beaucoup de permanences itinérantes. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'on reste au plus près, au contact. C'est ce que j'ai donné à mes élus, à mon équipe municipale. On est avant tout des militants, on est avant tout Villeneuvois. Beaucoup étaient des parents d'élèves, sont, comme je vous le disais, de la société civile. Donc ça, il faut jamais s'en détacher. Aujourd'hui, on porte une écharpe, on est représentants de nos familles, mais nous sommes issus de notre territoire. Donc pour bien mener les politiques publiques, il faut avoir une vision précise de là où ils veulent que nous allions. Alors bien sûr, on fait un programme, bien sûr, une fois qu'il est validé par le vote, on actionne, on envoie, on fait le programme, mais c'est toujours important d'écouter et pour pouvoir réajuster toutes les politiques publiques menées. Donc ça, porte à porte, réunion de quartier, à chaque fois que c'est nécessaire, on a prévu des temps d'échange avec les familles systématiquement, ce qui nous permet de toujours être au plus près de la réalité du terrain.
Il me semble, si je ne m'abuse, que la dette de Villeneuve-Saint-Georges s'élève à plus de 30 millions d'euros. Mmh. Comment faire pour assainir les finances de la ville?
Ça va être un long chemin. Ça va être un très long chemin, d'autant plus que nous devons, sur les années à venir, continuer d'investir. Parce qu'aujourd'hui, si je n'investis pas dans le bâtimentaire, dans les écoles, dans les crèches, sur la voirie, moi, je vais avoir des bâtiments qui vont tout simplement s'effondrer. Voilà aujourd'hui, voilà où on va arriver. Donc, je dois continuer. Et puis, en plus, j'ai deux programmes de renouvellement urbain. Donc sur le quartier nord et au centre-ville, donc des lourds investissements à faire, plus le programme de renaturation, c'est dire on va avoir plusieurs millions à décaisser dans les années à venir, et ce chaque année. Donc comment on fait? On va chercher beaucoup de subventions. Je suis depuis un an une super VRP de la ville.
À la pêche aux subventions.
À la pêche aux subventions. Chaque journée est faite de comment financer ce projet, quid du montage de celui-ci. Est-ce que ça, mes élus, ils ont pris l'habitude, hein, quand ils viennent me voir avec un projet dans mon bureau, la première question, est-ce que c'est gratuit? Oui, d'accord. Combien ça nous coûte? Donc déjà, on commence déjà à réfléchir. Réduire les coûts.
C'est simple, puisque aller chercher des subventions, c'est une chose, mais il faut aussi réduire des coûts.
Exactement.
Où allez-vous les réduire?
Mais on renégocie les contrats. Moi, j'avais des, on va vous prendre un exemple qui pourrait porter à sourire, mais j'ai une salle communale qui avait été détruite il y a 2 ou 3 ans. On continuait de payer des factures d'électricité. J'aimerais comprendre.
Ce qui semble absurde.
Complètement. Des exemples comme ça, on en a énormément. Donc il faut tout repasser au peigne, il faut tout rediscuter, tout renégocier, revoir nos marchés publics. Il faut rationaliser ce qui n'avait pas été fait depuis un bon bout de temps. Il faut réorganiser aussi, il faut réapprendre à travailler nos méthodes de travail. Il faut revoir la manière dont on travaille, et parce que nos services font un travail formidable, mais si on apprend à mieux travailler, on évite d'être dans la redondance des tâches, et ça nous permet d'assurer un meilleur service public. Et bien sûr, il faut échelonner la dépense, tout simplement. Ça, c'est l'étape d'après. Eh bien, c'est cette année on fera ça, l'année prochaine on s'attellera à ce sujet. Là, on peut pas. Il faut savoir dire non, même si c'est difficile. Et il faut savoir l'expliquer à la population. Il faut savoir faire de la pédagogie. Et ils le comprennent. À partir du moment où on est clair, où on dit les choses, eh bien, nos familles le comprennent tout à fait. Et chaque année, pour retrouver un peu de capacité d'autofinancement, parce que c'est ça le nerf de la guerre, pour pouvoir réduire la dette, ben on met un petit peu. L'année dernière 200 000. Cette année encore, on va mettre plus de 100 000 pour réduire la dette au fur et à mesure.
Revenons donc sur les conditions de votre élection il y a un an. Vous avez été élu dans des conditions très particulières, on le disait au début de cet entretien, après de nombreuses tensions internes au conseil municipal, après une crise politique explosive dans la commune qui a donc à l'époque avait été extrêmement médiatisée. Vous arrivez à la mairie, nous sommes un an après, pensez-vous avoir rétabli la confiance entre le politique et l'électeur?
C'était, on va dire, le sujet le plus important, rétablir la confiance avec nos familles. On a fait une réunion.
Puisque au-delà des crises politiques partisanes, il y avait une crise de la démocratie, d'une certaine façon, à l'échelle de Villeneuve-Saint-Georges.
Oui, à l'image de notre pays, c'est vrai, et peut-être plus fortement encore à Villeneuve-Saint-Georges. Un réel rejet de la classe politique, une perte de confiance totale dans la ville et dans l'avenir possible sur cette ville. Les gens avaient inscrit ça dans leur tablette. À Villeneuve-Saint-Georges, on n'y arrivera jamais. C'est une fatalité, c'est pas possible. Donc c'est vrai que depuis un an, on a reçu, vous savez, quand on est arrivé, j'ai travaillé moi-même en cabinet, dans une autre mairie, Et quand on recevait un courrier, parce que moi j'ai coutume de dire que nous sommes le service après-vente. Les gens ont déjà payé par leurs impôts le service, donc on leur rend, et quand ils viennent nous voir, eh bien c'est pour nous demander l'éclairage, la voirie, ce qui est normal. C'est notre mission. Et c'est vrai que quand vous êtes le service après-vente, ben vous récupérez les doléances, vous récupérez pas un mot gentil ou un courrier de satisfaction. Ça arrive pas souvent, ça.
Ça n'arrive jamais, les éloges?
Pour avoir travaillé en cabinet, on en a un, et puis quand on en a un une fois de temps en temps, on est content, on le montre à tous les élus et à tous les agents, et puis il fait le tour des services et on l'encadre. C'est plus facile de dire quand on n'est pas content. Et puis, c'est le principe même du service après-vente. Et là, c'est vrai que sur cette année, moi j'ai vu des choses, je vois les habitants spontanément, alors ça me touche beaucoup quand je le vois, spontanément venir vers la police municipale et leur dire merci. C'est tellement peu courant, surtout avec l'image qu'on a de la police municipale. Des élus viennent voir nos agents, ils disent merci, grâce à vous je peux sortir de nouveau, merci pour ce que vous faites. Ils viennent nous voir, ils nous écrivent, ils nous disent vous avez eu, j'ai un courrier qui m'avait beaucoup touché d'un habitant justement de cette fameuse rue de Paris, on peut y retourner d'ailleurs aujourd'hui, il faut aller voir, et il a dit mais vous avez eu le courage de prendre des décisions même difficiles, même si elles sont dures, vous avez eu le courage de prendre ces décisions et aujourd'hui on vit mieux. Donc ces courriers de sympathie et d'encouragement, quand parfois, parce que ça nous arrive aussi de douter, on est humain, ça nous permet de se dire que ben on fait bien, on est juste dans les décisions qu'on prend pour nos familles. Donc la confiance, je crois qu'on la construit un peu plus chaque jour. Et le challenge, c'est de, pour nous, en tout cas pour moi, parce que c'est aussi fait partie des exigences personnelles que je porte, de ne pas décevoir. Pas décevoir nos familles, pas décevoir ma famille, de faire en sorte que les Villeneuvois soient fiers, qu'ils retrouvent la fierté de leur ville, qu'ils soient fiers de leurs élus et du travail qui est fourni. Et ça, on le fait par le travail, en travaillant dur.
Christelle Niasme, ce sera ma dernière question. Comment ira Villeneuve-Saint-Georges en 2032?
En 2032, mais on sera la plus belle ville de France. Les gens, déjà que les gens viennent chez nous, parce que vous savez que vous avez compris, autour de l'église Saint-Georges, il y a un rapport religieux, donc il a été gommé pendant la Restauration, c'est devenu Villeneuve-la-Montagne, donc il y a toute une histoire à Villeneuve-Saint-Georges. Et en plus, on a le téléphérique chez nous, donc Villeneuve-la-Montagne, le téléphérique, les gens viennent chez nous, on a des touristes
qui est arrivé très très récemment, qui est arrivé en décembre dernier.
Incroyable. Ouais. Donc à Villeneuve-la-Montagne, on a le téléphérique urbain, mais c'est incroyable, on a des touristes. Donc alors les gens viendront en 2032, ils viendront visiter le centre-ville parce qu'on aura une offre culturelle incroyable, qu'on aura mis un centre culturel là-bas. Ils viendront visiter notre patrimoine pour voir la place Solferino, l'église Saint-Georges, les reliques du cavalier Saint-Georges. Ils viendront visiter le téléphérique urbain, se promener dans nos quartiers réhabilités. Ils viendront voir notre ville parce qu'on sera une ville belle, on sera une ville verte, avec des espaces réhabilités, des espaces verts, et qu'on aura des activités en bord de Seine, et qu'on aura du plaisir à se promener au bord de la Seine. Villeneuve-Saint-Georges sera la plus belle ville de France.
Et par souci d'équité, je rappelle donc qu'il y a aussi d'autres listes.
Oui.
Dans le cadre de ces élections municipales, la liste Villeneuvois Construisons l'avenir avec Nadia Abaoui, Union pour une éthique municipale à Villeneuve-Saint-Georges, une liste d'hiver gauche dont la tête de liste est Thiaba Bruni, Villeneuve Unie et Solidaire, une liste d'Union des droites pour la République avec Cathy Kabilitch. Villeneuve d'abord, c'est notre direction, liste des Républicains avec la tête de liste dans mon studio en ce moment même, Christelle Niasme. Villeneuve demain, une liste d'hiver gauche avec Guillaume Poiret. Villeneuve, c'est vous avec Brian Méto, mais aussi Votez pour vous, Zoubida Elfoukaoui. Villeneuve la belle, la rebelle, qui est une liste d'Union à gauche portée par Mamadou Traoré. Faire mieux pour Villeneuve-Saint-Georges, liste de la France insoumise avec Dounia Kirani en tête de liste, Monsieur Louis Boyard qui est quatrième sur la liste, et enfin Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, une liste d'extrême gauche portée par Lucien Noailles. Merci beaucoup Madame Niasme pour ces éclairages.
Merci
sur votre mandat et sur vos projets pour Villeneuve-Saint-Georges.
Merci mille fois.